Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
La 15e étape du Tour de France, du Four de France plus exactement aujourd'hui, avec plus de 40 degrés sur la route en direction de Carcassonne. Les coureurs du peloton sont descendus des montagnes, ils y sont restés quelques jours dans les Alpes, et puis hier dans le Massif Central. Aujourd'hui on est dans la plaine et on est dans le sud-ouest du pays où les températures sont les plus élevées. Ce sera encore le cas demain et ensuite ça risque de baisser un petit peu. Ce sera pas de refus, hein, Pierre-Yves.
Alerte rouge sur la Loire Atlantique, là, je viens de voir.
La Loire Atlantique.
Exactement.
La Bretagne sous la canicule, c'est la première fois.
On ne moquera plus jamais de plus beau département de France dans les années à venir.
Et les fraises de Cyril vont.
Ah ouais, ça va être un souci. Hein.
Ah non, mais allume ton bouton.
Les fraises, c'est fini. Hein.
Oui, c'est fini.
Non, c'est les tomates,
là. Ouais. Les tomates,
je ne sais pas si c'est la chaleur, mais mon épouse ce matin me disait qu'elle était très ennuyée parce que les oiseaux s'attaquaient aux tomates en ce moment.
Oh là.
Et donc, il faut mettre des filets au-dessus. Elle a un travail de dingue.
Ah,
il y a des gens qui ont un boulot dingue. C'est fou quand même. Nous sommes donc toujours en direct de Carcassonne. Un tout petit point sur la course, il ne se passe rien. Hein, donc
oui, il y a toujours Nils Polite et Mickaël Honoré qui font leur petite promenade de santé à l'avant. Une minute douze avant le peloton à 77 km 700 de l'arrivée. Et un maillot jaune qui a eu un petit incident et qui est ramené à l'instant par son coéquipier Tige Benoît. Il est dans les voitures. Pas d'inquiétude hein, pour Jonas Vingegaard.
Très bien. On est toujours en compagnie de Léon Marchand qui nous fait le plaisir de rester avec nous quelques instants. Il est le régional de l'État puisqu'il est originaire de Toulouse, même si tu as quitté famille, copains, tout le monde pour aller aux États-Unis. Plutôt une bonne expérience. Ça a plutôt porté ses fruits cette histoire-là, Léon.
Oui, c'est clair. Je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner là-bas, à faire les compètes universitaires et aussi avoir des études à côté. Donc,
oui, c'est ça. C'est parce que tu
bon
es dans une université américaine. Donc, c'est.
En plus, ouais.
Donc, pas mal de temps évidemment pour s'entraîner, on le disait, 2 entraînements par jour. Mais aussi, on travaille la tête, on fait travailler c'est la ça. Tête aux États-Unis.
Je disais, ouais, j'ai un meilleur équilibre là-bas parce que voilà, j'ai 3 heures de cours par jour. Après, j'ai aussi des devoirs à faire, mais c'est surtout que je vais sûrement avoir mon diplôme dans 3 ans, donc je perds pas mon temps à côté. Et du coup, c'est plus facile de balancer justement l'entraînement et le scolaire là-bas. Donc,
ouais. Ouais. Tu fais des études de quoi ?
Informatique et programmation.
Ah oui, j'avais entendu ça il y a quelques jours lorsque tu avais été interrogé. Après ces 2 titres mondiaux, on le rappelle, 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, il est la relève à lui seul de la natation française. Vous compariez tout à l'heure, et Cyril, tu voulais poser une question à Léon. Alors tu lui as posé hors antenne, mais tu peux lui reposer histoire que nos auditeurs en profitent également.
Oui, mais comme vous me coupez la parole à chaque fois, voilà. Oui, moi ce qui me choque toujours, c'est que je parle pas à votre niveau, hein, mais au niveau des jeunes. L'entraînement, c'est obligatoirement à partir de 6h ou 7h, et qu'ensuite la piscine n'est plus utilisée. Je parle pour les débutants, et ça me pose pas un problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est obligé d'envoyer faire du sport et de la natation, entre autres, à 7h du matin ou à 6h du matin?
Alors, déjà, niveau scolaire, on a besoin d'avoir du temps entre les entraînements. Moi, du coup, j'ai en général les cours de 9h à midi. Donc j'ai l'entraînement à 6h jusqu'à 8h et après l'après-midi de 14h à 16h. Après on s'entraîne très tôt aussi pour préparer les compètes. Par exemple le championnat du monde, il faut être très fort à 9h du matin pour se qualifier en finale. Donc c'est plus facile quand on se lève toute l'année tôt et d'arriver à la compète, on est plus confortable avec le réveil. Donc ça, voilà, c'est un peu du travail à long terme aussi. Donc.
Non mais je parlais pas à votre niveau. Quand vous arrivez
pour les jeunes.
Non, je parle pour les jeunes, moi.
Moi, j'ai jamais compris non plus.
Les mômes de 12, 13, 14 ans.
Ouais. Bah, je pense que c'est les horaires, parce que malheureusement, en France, il n'y a pas des piscines qui sont faites pour les clubs.
C'est un manque d'équipement, en fait.
Il y a beaucoup de public qui vient dans les piscines, et du coup, les créneaux sont très compliqués à avoir. Moi, j'ai de la chance d'être au Dauphin du Touec. Il y a quand même une piscine que pour les nageurs. Du coup, on a un peu le temps dans la journée de s'entraîner. On a des bons créneaux. Mais voilà, d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal quand j'étais jeune à me lever tôt comme ça pour aller dans la piscine froide dès le matin.
Oui, en plein hiver, c'est vrai que c'est pas très drôle de se jeter dans l'eau, même si elle garde une température acceptable. Donc, Léon, tu es aujourd'hui aux États-Unis. Là-bas, tout est fait pour les nageurs et pour les sportifs de très haut niveau dont tu fais partie, évidemment.
Ouais, c'est clair. Le sport est vachement valorisé là-bas, que ce soit au niveau scolaire, c'est-à-dire que mes professeurs savent exactement quel week-end j'ai une compétition, quel week-end je vais avoir un emploi du temps un peu plus chargé, donc je peux aussi rater des examens, les refaire par la suite. C'est plus facile de s'adapter au niveau scolaire. Et après, tout simplement, tout le campus se déplace pour les matchs, que ce soit football américain, tennis, tous les sports. Donc c'est vraiment génial.
Il y a une vraie ambiance de groupe au sein des.
On se sent vraiment dans une équipe. Et puis c'est une grosse équipe. On est 75 000, je crois, dans l'université.
75 000 étudiants.
Un truc comme ça, ouais.
Il y a combien de sportifs de très haut niveau dont...
Je sais pas, mais il y a tous les sports, en fait. Il y a tous les sports. Donc c'est impressionnant. Tout le week-end, il y a du sport. Nous, en général, l'équipe de natation, on se déplace pour aller voir le basket, le volley, enfin tout ça. Donc c'est génial, ouais.
Il y a du cyclisme dans ton université?
Non, il n'y a pas de cyclisme. Pas trop. En plus, à Phoenix, il fait trop chaud, je pense.
Ah ouais, c'est vrai que. Voilà. Même toi, tu avais été chercher un petit coureur aux États-Unis, Cyril, il y a quelques années quand même. Non ?
Oui, tout à fait. Oui. Il marchait pas trop mal. Greg LeMond, oui.
Trois fois vainqueur du Tour de France.
Il avait 18 ans.
Pas trop mal.
Il avait 18 ans à l'époque, oui.
Léon, tu profites aussi de ton séjour sur le Tour de France pour participer à une opération avec Century 21, puisque vous collectez des vélos et vous les distribuez. Et là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'était donc pour quels enfants?
Là du coup, moi c'est la première fois que je mettais les pieds sur l'arrivée du Tour de France, donc déjà c'était génial. Et après j'ai participé donc à cet événement organisé par Century 21 pour les enfants des Restos du Cœur.
D'accord.
Donc c'est un enfant à vélo et j'étais juste super content de remettre des vélos comme ça aux jeunes des Restos du Cœur, et tu sens qu'ils sont hyper contents de les avoir parce que c'est aussi leur premier vélo, donc. Voilà, je pense que tout le monde se rappelle de son premier jour avec son premier vélo, donc c'était génial.
Voilà, tu leur remets pas des maillots de bain et des bonnets de bain quand même.
Non, je pense que le vélo c'est mieux, je pense.
C'est un plus beau cadeau, autrement ils vont t'envoyer bouler si tu leur fais la maillot de bain. Très bien, merci Léon, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. On te souhaite de bonnes vacances, un bon retour aux États-Unis. Il y a quand même quelques petites échéances qui approchent. Les championnats d'Europe, tu les fais pas?
Championnat d'Espagne dans cette semaine, la semaine prochaine. Après c'est plus un objectif de fin de saison, quoi. Après je prends des vacances 3 semaines et je repars aux États-Unis le 15 août, et après on va essayer de faire la finale universitaire en mars, et après les championnats du monde l'année prochaine.
Voilà, championnat du monde quand
et
même.
Et après Paris
2024, les Jeux Olympiques. Oui, et une chute à l'arrière du peloton.
Oui, exactement. C'est Owain Doull qui vient de chuter. Bah, ça va être un petit peu plus nerveux peut-être dans les kilomètres à venir, mais là c'est bizarre, il a touché un bidon. On en parlait, l'importance des bidons aujourd'hui, et forcément il y a de temps en temps des bidons qui roulent sur la route, et Owain Doull a été pris dans cette chute, pas trop grave. Il va réussir à se relever, tout comme Franck Bonamour tout à l'heure. Il est reparti, il est remonté sur son vélo, mais évidemment c'est pas agréable
avec la chaleur qu'il fait, devoir faire des efforts supplémentaires pour repartir à l'arrière du peloton. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Ça te fait marrer?
C'est pas agréable même quand il fait froid.
Non, quand tu touches le goudron gelé, c'est pas mieux, effectivement. Moi en piscine, Léon, vous avez pas ce genre de soucis, hein?
Non,
tu peux boire la tasse éventuellement,
c'est pas très dans la piscine.
Tu peux taper la tête contre le rebord de la piscine.
Ouais, il faut vraiment être aveugle quand même. Non, après c'est surtout les tendinites aux épaules nous qu'on a, mais c'est tout quoi, c'est pas aussi grave.
Voilà, des belles épaules. Il a des belles épaules, Léon Martin.
Bon, presque comme moi.
Oui, c'est vrai.
Quelque chose près, on est pareil.
On va mettre dos à dos pour voir un peu la différence au niveau de la taille des épaules. Merci, Léon. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et on te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Et plein de médailles et plein de titres universitaires et de titres avec l'équipe de France, notamment en Paris 2024, où tu seras l'un des fers de lance du sport français et de la natation. Merci, Léon Marchand.
Eh bien, merci beaucoup.
Bonne 16h13 sur RMC. On revient sur la course. On va aller à l'avant avec Arnaud Souk sur la moto pour qu'il nous parle un peu de ce qu'il voit et ce qu'il ressent cet après-midi.
Bah écoute, toujours la même chose, de la chaleur. Je ressens aussi que les coureurs à l'avant, Mickaël Honoré et Nick Spolitt, sont plus très loin de se faire rattraper. Je ressens du sud-ouest. On voit bien les paysages quand même qui ont nettement changé aujourd'hui depuis que l'on est descendu du massif central. On voit les champs de tournesol, les champs de maïs, les petites routes avec des platanes sur le bord de ces routes. Voilà, ça sent vraiment le sud-ouest désormais sur la route du Tour. Les paysages vraiment qui sont devenu très très différent. On va rester dans ce type de paysage pendant ces quelques prochains jours, y compris dans les Pyrénées d'ailleurs, parce qu'en plaine ce sera à peu près la même chose entre les cols que l'on va gravir ces prochains jours. Il fait toujours aussi chaud, hein, 38 degrés sur la route du Tour. Il nous reste 74 km. C'est un petit peu dur sur la moto là. On va pas se le cacher. On allait faire un petit tour à la moto fraîcheur il y a quelques minutes, histoire d'avoir un petit bidon d'eau fraîche.
Bah oui.
Ah oui. RMC
Intégral Tour.
Effectivement, il y a besoin de fraîcheur aujourd'hui sur la route du Tour, alors que le coureur de la
Wayne Jules a quand même bien tapé. Hein. Il est à la voiture médicale, là, en train d'être soigné avec un petit filet sur le coude. On lui a nettoyé le coude qui saignait, le pansement autour du filet pour pouvoir reprendre sa route. Il a le droit, lui, évidemment, dans ces cas-là, d'être accroché à la voiture le temps qu'on le soigne. Le genou gauche est également touché. Et donc, il est actuellement, s'il a quand même bien tapé, hein, puisqu'il y a aussi le cuissard qui est déchiré au niveau du haut de la cuisse. Owain Doul, à qui il reste 72 km à parcourir, 1 minute 30 toujours d'avance pour les deux hommes de tête sur le peloton.
Bon, que va-t-il se passer dans cette étape? Vont-ils le reprendre à combien de kilomètres de l'arrivée? Christophe, on va lancer les paris.
Le plus tard possible, ça veut dire quoi? Ils vont les laisser en tout cas une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Ils vont essayer, parce que peut-être qu'ils vont se rebeller au préalable. Il ne faut pas qu'il y ait de contre, il ne faut pas que ça bouge autrement. La situation est parfaite pour les équipes de sprinteurs et les sprinteurs eux-mêmes, donc le plus tard possible sera le mieux. Il risque de finir, des fois on l'a déjà vu par le passé, petit plateau devant, derrière, parce que tout le monde ralentissait et personne ne voulait se rattraper. Mais en tout cas, allez, moi je dirais une dizaine de kilomètres de l'arrivée.
Tu crois pas que ça va s'accélérer au moment du sprint, c'est-à-dire à 55 km de l'arrivée? Et que c'est là où
il est possible, il est également possible. Il y a une petite ascension du côté de la côte de Camaz qui est assez difficile.
Juste après le sprint.
Après le sprint, avec la chaleur et la fatigue aidant, il est possible qu'une équipe puisse avoir des idées dans la tête et de faire sortir les grimpeurs les moins performants dans les ascensions.
Ça, et si l'écart est pas très grand, c'est pas impossible qu'on ait des coureurs qui sortent de l'arrière pour faire le jump devant et recréer un groupe, recréer une dynamique à l'avant et se retrouver avec 7-8 coureurs devant qui vont essayer d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Maintenant, ça paraît quand même bien cadenassé par les équipes de sprinteurs.
Oui, pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas de course. Les deux hommes de tête qui aimeraient peut-être se faire rejoindre, mais plus ils ralentissent et plus le peloton ralentit. S'ils reprennent 30 secondes, le peloton réaccélère. Donc là, on est dans une phase totalement inintéressante de la course.
Oui. Après, on n'a pas un vélo de piste. Là, il y a quand même des freins. Si on veut vraiment se faire attraper, on peut donner un petit coup de frein.
Oui, en plus des freins à disque, il n'y a pas de problème.
C'est ça. Exactement.
Non, mais c'est vrai. Bon, je suis très direct, mais là, la course, il faut attendre où les hommes de tête se relèvent, ou tout à l'heure, soit avec le sprint pour les points. Mais bon, comme il n'y a plus d'intérêt du tout d'aller faire ce genre de sprint, puisque Wout Van Aert a mis tout le monde KO.
Oui, mais est-ce que c'est pas intéressant quand même à une heure de l'arrivée sur ce sprint, justement d'aller se remettre un peu. On dit voilà.
Non,
ça sert à rien.
Non, au contraire, moins on fait d'efforts pour les sprinters, mieux on se porte. Et de toute façon, dans les derniers kilomètres, quand les trains seront en route, vous inquiétez pas, la machine se débloquera. Ou elle se bloquera. Mais c'est pas parce qu'on fait un effort à 50 km de l'arrivée que ça. Surtout des efforts quand il n'y a pas d'enjeu.
Oui, c'est ça.
Quand il n'y a pas d'enjeu, ils ne vont même pas se mettre à 90%.
Quoi. Pas déboucher les gigleurs. Les gigleurs,
ils ne vont pas les déboucher. Là.
Très bien. On va revenir, Pierre-Yves, sur les épisodes de grosse chaleur ou les épisodes climatiques sur la route du Tour de France, puisque, à la différence d'autres sports, eh bien, vous confronter aux phénomènes climatiques, que ce soit la chaleur ou le froid. Tu en as relevé quelques-uns de très marquants dans l'histoire du Tour de France.
Oui, alors on en a évoqué quelques-uns, comme la chute de Bellocchi avec Lance Armstrong dans sa roue et ce qui était dû finalement au bitume qui n'avait pas été arrosé, le fameux ressuage de Dédé. Il faut se souvenir aussi de cette fameuse 13e étape du côté de Nîmes dans le Tour de France 1950, où il y avait aussi là une chaleur
caniculaire. Et on avait deux coureurs de l'équipe d'Afrique du Nord, Marcel Molinès et Abdelkader Zaf, qui avaient attaqué et qui avaient là aussi pris beaucoup d'avance, comme on l'a vu ces derniers jours. Ils avaient plus d'un quart d'heure d'avance pour aller essayer de gagner l'étape et de se disputer cette étape au sprint. Et en fait, comme il faisait très très chaud, au bout d'un moment, avec la chaleur, eh bien Abdelkader Zaf a été pris d'un malaise. Il s'est écroulé au bord de la route et on est dans une région très viticole et il y avait des vignerons qui se trouvaient juste dans ce coin et qui ont assis Zaf ce jour-là et qui l'ont aspergé, non pas avec de l'eau mais avec du vin. Il a retrouvé ses esprits, Zaf, il est remonté sur son vélo, mais il est remonté à l'envers dans le parcours, il est reparti dans l'autre sens. On avait dit à une époque qu'il avait bu du vin, mais en fait c'était vraiment cette odeur qui dégageait, qui avait créé un peu cette légende. Et Zaf en fait a réussi quand même à reprendre sa route. Il a même terminé lanterne rouge du Tour, mais c'était un très bon coureur. Mais voilà, c'était un petit épisode de la chaleur et des dangers, un danger qu'on connaîtra quelques années plus tard en 67, le 13 juillet, avec la mort de Tom Simpson dans le Ventoux, qui était là aussi plongé dans la chaleur, une chaleur énorme sur ce Ventoux. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que le docteur du Tour, qui était le docteur Dumas, avait prévenu le matin en disant « S'il y en a qui font les cons, on aura des morts ». Et effectivement, Tom Simpson sera un des morts du Ventoux. Et un peu auparavant, il y avait aussi en 1957, et là c'est l'équipe qui avait baptisé le Tour très chaud, le Tour crématoire cette année-là, évidemment en référence à quelques années plus tôt, l'histoire terrible qu'on a connue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce Tour 1957 avait provoqué la montée dans la voiture balai de Charlie Gaulle, qui avait été obligé d'abandonner tellement il était pris lui aussi par la chaleur cette année-là. Il avait été obligé d'abandonner. Donc évidemment, une grande compétition comme le Tour de France en plein mois de juillet, ce sont souvent les grosses chaleurs comme en août, et il y a toujours eu des épisodes comme ça. Cyril, tu en as peut-être connu aussi pendant les années où tu as couru. Ça dépend des années, forcément. Là, on est pris par la chaleur.
Oui,
c'est très variable. Il y a eu la pluie aussi pour
Christophe. Soit en tant que coureur, soit en tant que directeur sportif. Mais bon, ça fait aussi partie de la règle du jeu. En 57, c'est Jacques Anquetil qui gagnait son premier Tour de France.
Et oui, voilà. Par cet abandon aussi de Charlie Gaulle.
Et Jacques Anquetil passait donc bien la chaleur. Alors, il y a des canicules qui peuvent durer 24 heures, 48 heures. Rarement, moi, j'ai vu des canicules qui duraient 5 ou 6 jours ou 7 jours. Donc, on a à certains moments des pics, effectivement. Mais en règle générale, à part quelques coureurs qui vont être contraints à l'abandon à cause de cette chaleur, on n'a quand même pas trop de problèmes.
Parce que aussi, le Tour de France bouge, évidemment, donc change de région. Et parfois, la région, c'est la même qui est bloquée pendant 10 jours, mais que toute la France soit prise dans la canicule, c'est assez rare, effectivement.
Oui, et puis bon, même sur des étapes comme aujourd'hui, très souvent on va passer dans des petites forêts, donc on va avoir un peu de vent, des descentes où on va retrouver un peu de fraîcheur. Donc oui, ça souffre énormément, mais les plus grosses chaleurs que j'ai vues, c'était sur le Giro en Sicile. On était à plus de 40, voilà. Et ça, c'était au mois de mai-juin, quoi. Donc, la chaleur est difficile, elle impacte les organismes, elle rend les coureurs fragiles parce qu'ils boivent énormément, on va dire 7 ou 8 litres d'eau, voire plus, parce qu'ils s'arrosent beaucoup, et que ça a une incidence énorme sur le système digestif. Et beaucoup de coureurs, comme tu le disais tout à l'heure, peuvent avoir des problèmes et essayer de trouver éventuellement des meules de foin pour aller se planquer.
Ce qui était arrivé à Tom Dumoulin, on l'a raconté aussi cet épisode il y a quelques années. Dans 10 km, le sprint intermédiaire, 2 minutes d'avance pour les deux hommes de tête. On va voir si la course démarre sur ce sprint intermédiaire ou si ça sera dans 15 km ensuite. Alors que à l'instant, à la tête de course, eh bien on s'arrête. Ah oui, mais il y a encore des manifestants qui sont sur le bord de la route. On leur demande de s'évacuer. Donc peut-être qu'à nouveau, la route va être bloquée pour les coureurs du Tour, parce que ils sont 3-4 là, 3 me semble-t-il. Alors est-ce que Arnaud, toi tu as une vision sur ce qui se passe à l'avant de la course, à nouveau des manifestants sur la route du Tour?
Non, parce qu'on a été obligé de passer en avant. Donc je vais te laisser la main. Honnêtement, je n'ai pas de vue sur ce qui se passe.
Tu n'as rien vu au moment où tu passais non plus. Il n'y avait rien de
non,
sensible.
Non, j'ai pas rien du tout. Rien d'annonciateur. Aucun signe annonciateur.
Ouais, bah, ils sont...
L'autre jour, on avait clairement vu les signes annonciateurs avec des fumigènes.
Hein. Ouais. Alors là, ils sont à nouveau avec des fumigènes, mais ils ne sont que 3 ou 4, semble-t-il. Donc la route est à nouveau coupée et il y a des personnes de l'organisation qui essayent de récupérer ces garçons et de les emmener en dehors de la route pour laisser passer le peloton. Mais actuellement, on a à nouveau une course qui pourrait être... Il y a une chute en plus dans le peloton, puisqu'il y a des coups de frein, chute dans le peloton, alors que les deux hommes à l'avant ont ralenti. Van Aert et Kruijswijk. Kruijswijk qui, semble-t-il, a été touché. Coup dur pour l'équipe Jumbo-Visma. Il y a également un coureur de la DSM.
On écoute Radio Tour. Voilà, c'est Sébastien Piquet qui...
Ouais, il se coule la tête.
Oulala, Kruijswijk, c'est un très mauvais signe. La clavette, non, là, ou le bras.
Bah, c'est toujours une inquiétude, hein, à ce moment-là, effectivement.
La clavette droite.
Et Martin Tusveld pour l'équipe DSM. Wout van Aert repart, mais le poignet aussi. Kruijswijk se tient le poignet. Il est assis au milieu de la route avec Philippe Mauduit de l'équipe Groupama FDJ qui vient enlever son vélo pour le mettre un peu plus en sécurité, le protéger. Et deux médecins viennent d'arriver.
Avec la clavicule.
Oui, bien sûr.
Il y a encore la formation DSM aussi, Martin Tusveld qui a été touché, mais qui lui va pouvoir reprendre la course. C'est plus compliqué pour Kruijswijk.
Alors, je veux pas rentrer dans les polémiques qu'on rappelle très souvent, mais c'est pile au moment où il s'est passé un incident à l'avant. Donc, on peut imaginer que dans les oreillettes, à ce moment-là, on a eu plein d'informations en même temps dans le peloton. Hein.
Bien sûr, on leur a transmis l'information qu'il fallait ralentir, hein, comme je racontais l'histoire du bus de Dorica Greenedge tout à l'heure. Bah, c'est la même chose là. Voilà, il y a dû avoir un peu de nervosité, des coups de frein, et je pense que Jumbo Visma va perdre un deuxième grimpeur aujourd'hui.
Oui, inquiétude pour après l'équipe Roglic, Jumbo. Peut-être qu'après Roglic, c'est Kruijswijk qui ne va pas pouvoir finir cette étape. Primoz Roglic lui n'avait pas pris le départ. Jakob Fuglsang également a été pris dans cette chute et vient de repartir à l'instant. Alors, la course n'est pas arrêtée, semble-t-il. 63 km à parcourir, 1 minute 26 d'avance. On n'est pas dans le même cas de figure, Christophe, que l'autre jour avec des manifestants qui bloquent vraiment la course. Il semble que ça soit reparti.
Ouais, il y avait que deux manifestants, me semble-t-il, et ils ont été évacués manu militari de la route. Mais effectivement, ça a eu des conséquences sur le peloton, puisqu'on a signalé qu'il y avait donc des individus sur la route. Et il y a eu ces coups de frein qui ont peut-être provoqué la chute et donc mis hors course probablement Steven Kruijswijk. Donc voilà, ce genre de choses peut avoir des conséquences. Je ne sais pas comment vous réagissez, vous, en tant qu'ancien coureur. Est-ce que vous pensez que c'est justement dû à cette interruption et à cette panique qui s'est située dans le peloton à ce moment-là?
Ouais, c'est difficile de ne pas voir le lien. Hein. On a vu les images. Juste après, on entend la chute dans le peloton. Ils ne sont qu'une minute trente derrière. Donc, ils sont vraiment juste derrière. Bien sûr que les informations sont passées dans l'oreillette, qu'il y a eu de la nervosité, un coup de frein. Mais là, ça va changer complètement la phase du tour pour le classement général, notamment, parce que maintenant il a qui Vingegaard, il a plus que Sepp Kuss. Hein. Là ça va changer et voilà, pas dans le bon sens pour Jumbo Visma.
Avec Wout van Aert, mais pas dans les derniers kilomètres des ascensions. Coup dur, double coup dur donc pour la formation du maillot jaune Vingegaard, car Kruijswijk, on n'a pas encore l'officialisation de l'abandon, mais on voit mal comment il pourrait repartir. Hein. Il se tenait l'épaule.
Il était dès le début, hein, il a fait des signes de la tête à Wout van Aert, notamment, qui était resté à côté de lui pour lui signifier que ça allait être très compliqué de repartir. 1 minute 13 d'avance pour les deux hommes de tête à 62 km de l'arrivée. Le peloton va essayer de se regrouper après cette chute.
Eh bien, on revient dans un instant sur la route du Tour de France en direction plus exactement de Carcassonne. Probable abandon de Steven Kruijswijk, équipier modèle de Jonas Vingegaard. Le maillot jaune, à tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
16h30 sur RMC, un coup dur donc pour la formation de Jonas Vingegaard, le maillot jaune de ce Tour de France qui vient après avoir déjà perdu Primoz Roglic ce matin, victime d'un abandon. Il vient de perdre un nouvel élément phare de son équipe, Steven Kruijswijk, Pierre-Yves, qui a été victime d'une chute il y a quelques minutes et qui vient d'être évacué et qui donc abandonne le Tour de France.
Et oui, donc c'est assez simple, hein, si on reprend l'équipe
qui est composé au départ du Tour du côté de la Jumbo de Primoz Roglic, Tiesj Benoot, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Christophe Laporte, Wout van Aert, Nathan Van Hooijdonk et Jonas Vingegaard. Et bien dans la même journée, vous éliminez Primoz Roglic et Steven Kruijswijk, qui sont deux hommes qui devaient accompagner Jonas Vingegaard en montagne. Donc c'est une journée noire, il faut le dire, pour le maillot jaune aujourd'hui, Jonas Vingegaard, qui se retrouve, alors Jérôme, je ne sais pas ce que tu en penses, mais avec cet abandon, puisqu'on vient de voir Steven Kruijswijk sur une civière être installé dans une ambulance, on se retrouve finalement aujourd'hui à deux contre deux, c'est-à-dire Maika Pogacar et Sepp Kuss accompagné de Vingegaard. C'est presque ça, dans la haute montagne on risque d'avoir cette vision-là.
Ouais, je me demande si ça n'a pas basculé même en faveur de l'équipe de Pogacar, parce que McNulty quand même il grimpe pas mal, Soler il était échappé hier, il a l'air d'aller de mieux en mieux, alors Mark Hirschi je pense pas, mais on a presque deux coéquipiers voire trois pour Pogacar, Maika, McNulty, Soler, alors que pour Jumbo on a Sepp Kuss bien sûr, Van Aert qui fait un peu tout,
oui,
alors... et Tiesj Benoot peut-être dans les premiers cols, oui. Mais là d'un seul coup c'est l'équipe à Pogacar qui me semble avoir pris le dessus.
Alors justement, est-ce que Van Aert qui était encore échappé aujourd'hui, est-ce qu'il va pas devoir changer d'optique pour la suite de ce Tour de France? Est-ce qu'il faut pas qu'il reste désormais aux côtés de son leader plus souvent, Christophe, et qu'il arrête de faire des raids en solitaire?
Ah, là, les faits de course sont terribles. Roglic ce matin ne part pas. Aujourd'hui, cet après-midi, Kruijswijk qui casse certainement une clavicule et qui abandonne. Il va falloir qu'il se réadapte, en tout cas dans le soutien de son leader, et compenser si, pour autant qu'il le puisse. On sait qu'il va très très loin en montagne. On l'a vu du côté du Granon et du Galibier la dernière fois. Néanmoins, c'est comme un très bon
chute, chute du maillot jaune. Chute du maillot jaune à l'instant. C'est encore l'équipe Jumbo-Visma qui est touchée. Tiesj Benoot, alors pas trop grave pour Vingegaard, même si on sent que l'épaule a été touchée puisqu'elle est noircie par le goudron. L'épaule gauche. Tout de suite, la voiture médicale est présente. Alors il repart, Vingegaard, mais pour Benoot, c'est plus compliqué. Il boite légèrement. Il va récupérer son boîtier. On sent bien qu'il n'est pas, parfait. Et Vingegaard qui lâche son vélo pour changer de vélo. Actuellement, Vingegaard qui repart. Oh là là, on parlait de journée noire pour l'équipe Jumbo. C'est vraiment le cas. À 57 km de l'arrivée, 44 secondes pour les deux hommes de tête sur le peloton. Mais l'équipe Jumbo va ramener maintenant Jonas Vingegaard. On imagine que Pogacar, qu'on aperçoit à l'avant du peloton, ne va évidemment pas lancer les hostilités.
Non, évidemment, ce ne serait pas fair play. Ce n'est pas le genre de la maison Pogacar en plus, hein, Jérôme.
Non, bien sûr que Pogacar ou son équipe ne vont pas bouger. De toute façon, même sans la chute, ce n'était pas leur course, ce n'était pas leur stratégie aujourd'hui. Mais purée, qu'est-ce qu'il arrive à l'équipe Jumbo-Visma quand une étape s'en manche mal en général? C'est comme ça jusqu'à l'arrivée. On espère qu'il... Alors, il a le maillot un peu tout noir de sa chute. Il n'a pas l'air d'avoir de grosses séquelles. On verra. Demain, c'est repos. Tant mieux pour lui. Mais on est un peu plus inquiet pour Tiesj Benoot. Pouah, quelle journée compliquée pour la Jumbo-Visma. C'est quand même complètement dingue.
Et c'est là où on voit que les forces sont affaiblies pour Jonas Vingegaard, puisque là, c'est Christophe Laporte et Sepp Kuss, déjà son ange gardien en montagne, qui sont obligés de venir l'aider. On revoit la chute là au milieu, en 15e position. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée, parce qu'on est caché par les 15 hommes qui sont juste devant, mais ça se passe vraiment au milieu du peloton, chose assez rare. On va voir décrocher un autre coureur, c'est Nathan Van Hooijdonk très certainement, qui va venir aider Laporte et Sepp Kuss pour ramener Vingegaard.
Ah oui, mais il reste plus grand monde après l'abandon de Roglic et de Kruijswijk. On décroche donc trois coureurs pour accompagner Vingegaard. C'est un double coup dur, triple coup dur même pour la formation de Jumbo, Cyril.
Oui, c'est une journée noire avec deux abandons. Alors peut-être qu'il y a une forme de déconcentration collective par rapport à l'arrêt de Roglic et qu'on est peut-être un peu moins attentif. Et puis vous savez, si vous avez travaillé un peu sur les biorhythmes, vous savez qu'il y a des choses qui se passent de façon cyclique. Aujourd'hui, cette équipe allait dans l'œil du cyclone. J'ai presque envie de dire, il ne faudrait pas que Van Aert aille faire le sprint.
Ah non, Van Aert.
Et Polyte s'en va tout seul. Polyte, lui, continue l'aventure devant. Mickaël Honoré essaye de suivre, alors que le sprint de Saint-Féréol est dans un kilomètre désormais. 30 secondes seulement d'avance pour les deux hommes de tête. Et on rappelle, derrière, il y aura la côte des Camas. La course est peut-être en train de s'emballer maintenant.
sont à 56 km de l'arrivée.
Oui, parce que les deux hommes de tête pourraient peut-être profiter, Christophe, de ces faits de course à répétition pour avoir un peu plus de temps. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, 30 secondes.
Ouais, l'écart est devenu mince. On voit à l'arrière du peloton beaucoup d'hommes lâchés désormais. Ça commence à peser la chaleur. Étape de transition, oui, mais quand même, ça fait mal, on le voit. Et il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, malheureusement, aujourd'hui, pour une étape qui paraissait simple sur le tableau.
Jumbo-Visma ont décroché trois coureurs. Il n'y en a plus qu'un avec Vingegaard. C'est plus Christophe Laporte qui le ramène. Les deux autres ont sauté. Je ne parle même pas de Benoît qui n'est pas reparti tout de suite. Mais Van Hooydonk donc a sauté. Kuss, pareil. Et c'est Christophe Laporte qui le ramène. Et ça, c'est un... Alors, il faut toujours courir en équipe. Mais c'est le problème quand vous avez la chute. Quand vous chutez et que vous avez une équipe bien groupée, bah, il y en a au minimum deux à trois qui partent ensemble par terre. C'est ce qui s'est passé avec Kruijswijk et Van Aert. Et maintenant, on a eu Vingegaard qui est tombé aussi. Avec Tiche Benoît qui semble repartir. Tant mieux pour Vingegaard.
Il faut toujours être attentif sur la route du Tour de France. En l'espace d'une seconde, tout peut disparaître, les rêves peuvent s'envoler, alors que Jonas Vingegaard désormais remonte tout seul. Il n'a plus besoin de Laporte pour réintégrer l'avant du peloton.
C'est que Laporte ne peut plus y aller.
Oui, tu as vu comme il a accéléré.
C'est important ce qui se passe là. C'est que pour rentrer sur le peloton, les trois équipiers de Vingegaard ont sauté.
Ouais, ça c'est vraiment très très surprenant. C'est pas une bonne nouvelle pour Vingegaard, alors que à l'avant, la tête de la course, 37 secondes devant le peloton, Nils Polit et Mikel Honoré vont se rapprocher du sprint intermédiaire. Ils ne sont plus qu'à 500 mètres. On voit que cette course aujourd'hui, elle n'est plus du tout comme sur une étape de plat. Ça monte, même si ce n'est pas répertorié.
Est-ce que Tadej Pogacar, là il n'a pas attaqué évidemment, mais est-ce qu'il pourrait quand même essayer de profiter de la situation dans le final, une fois que Vingegaard aura réintégré l'avant du peloton, essayer de profiter peut-être de la faiblesse passagère du maillot jaune?
Il faudrait qu'il y ait des circonstances de course assez particulières, et imaginons un seul instant qu'on a une dizaine de kilomètres avec vent de côté et que c'est même pas Pogacar qui mettrait en route, mais une autre équipe, là la bagarre serait lancée. Mais s'il ne se passe rien, à aucun moment Pogacar tentera une offensive
ça lui serait reproché évidemment éternellement.
Non, ça serait reproché s'il avait attaqué sur la chute. Là il n'a pas attaqué sur la chute. Après, comme le dit Cyril, s'il y a une bordure ou quoi, bien sûr que là il peut y aller, il peut même avec son équipe mettre en route s'il veut. Je ne pense pas que ça arrive. Après, une fois que Vingegaard est revenu dans le peloton, la course est repartie comme avant et Pogacar peut faire ce qu'il veut.
Une image à l'instant au passage au sprint intermédiaire, et bien Wout van Aert est passé en troisième position, personne n'est venu l'attaquer et il s'est retourné, il a ralenti immédiatement, il a regardé Pogacar. Justement, est-ce qu'il y a eu une petite phrase, est-ce qu'il y a un modus vivendi, on considère que voilà, on va pas s'attaquer sur les kilomètres à venir, en attendant peut-être que tout se regroupe, que les équipiers de Jonas Vingegaard puissent revenir, parce que la bosse juste avant ce sprint intermédiaire, elle a fait quelques dégâts déjà, et dans quelques kilomètres, dans 5 kilomètres maintenant, il y a la côte des Camaz.
Voilà, la côte des Camaz. Vingegaard a réintégré le peloton de tête, hein, parce qu'il y en a un peu partout là dans le passage ici sur la ligne du sprint intermédiaire. On vous rappelle donc l'événement intervenu il y a quelques minutes, la chute tout d'abord de Steven Kruijswijk en compagnie de Wout van Aert. Kruijswijk qui a été contraint à l'abandon vraisemblablement sur une fracture de la clavicule, et quelques minutes plus tard, Vingegaard a chuté avec Tiche Benoît. Lui, il a pu reprendre la route, mais effectivement sans Kruijswijk et sans Roglic qui lui a abandonné ce matin. Ce n'est plus du tout la même chose pour la formation Jumbo, alors que les deux hommes de tête sont rattrapés dans quelques instants.
Oui, plus que 15 secondes d'avance, 54 km à parcourir. La course est en train de changer au niveau du classement général. Est-ce que c'est pas le moment pour des garçons? Là, on est déjà dans la montée en fait de la côte des Camas. Ça va durer 10 km. Est-ce que c'est pas le moment pour tenter quelque chose pour la victoire d'étape aujourd'hui?
Les équipes des puncheurs, tu parles?
Oui, ou des garçons qui peuvent partir. Voilà, on pense aux Français évidemment.
À Matthews par exemple.
Non, je pense aux Français.
Oui, pour partir à l'offensive, recréer un gros groupe, parce qu'on est quand même à 54 km de l'arrivée. T'as dit il y a 10 km de montée, on sera à 44 km au sommet de la montée, même s'il y a des longues parties descendantes.
Et puis on va avoir un gros groupe.
Alors là maintenant, ils vont plus vraiment attendre que ça rentre. D'ailleurs, la course est lancée de nouveau, ils vont plus attendre ceux de derrière. Vingegaard est rentré, c'est bon, la course est repartie. Ceux de derrière, ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes pour rentrer. Par contre, les équipes, ça on a vu hein, ça a rendu le peloton très nerveux. Les équipes qui ont des coureurs qui passent bien les bosses, à l'image de Trek Segafredo pour Pedersen par exemple, Bike Exchange on l'a dit pour Michael Matthews, eux ils vont commencer à rouler de plus en plus vite pour faire sauter les purs sprinters.
On voit Rutsch par exemple qui est en train de tenter quelque chose, de coureur d'Education First.
Quand on rejoint l'échappée, on refait 1.0, une nouvelle course démarre et elle est repartie. C'est-à-dire qu'on a un classement de la montagne dans quelques kilomètres sur des pentes où ça finit relativement dur. Il y a une descente qui est quand même très technique derrière et les équipes qui n'ont pas encore gagné d'étape. Les équipes qui n'ont pas de sprinter, elles vont passer à l'offensive maintenant.
53 km 600 de l'arrivée. Cette étape était très bonne pour la sieste, mais la sieste s'est interrompue violemment il y a quelques minutes de cela avec l'abandon de Kreuzweig, la chute du maillot jaune et cette échappée qui s'était constituée dès les premiers kilomètres de l'étape qui vient d'être rattrapée. Un homme est sorti du peloton, un coureur d'information Education First.
Oui, Rutsch qui est parti, effectivement, à l'instant, Jonas, l'Allemand qui a rattrapé un autre Allemand, Nils Poli, qui était à l'avant avec Mickaël Honoré, alors que Pierre-Luc Perrichon essaye lui aussi de faire le jump à l'avant du peloton pour rattraper le maillot rose parti devant Pierre-Luc Perrichon qui voit le peloton collé au basque parce que du côté des Trek et Cafredo, on essaye de contrôler cette course à 53 km de l'arrivée maintenant.
16h41, on revient dans un instant sur la route du Tour de France. Cette étape devient folle. À tout de suite sur la route du Tour.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
16h44 sur la route du Tour de France, à 52 km de l'arrivée à Carcassonne, arrivée programmée aux alentours de 17h50. Aujourd'hui, le peloton y est allé tranquille, mais depuis quelques minutes, ça accélère sérieusement en tête avec notamment les coureurs, la formation Trek Segafredo qui met en route.
Et ça fait des dégâts parce qu'à l'instant, Simon Geschke est distancé. Il m'a semblé, Jérôme, apercevoir également Fabio Jakobsen.
Donc Caleb Ewan aussi, voilà. Distancé. Mais attention, là, on n'est plus du tout sur le même rythme que tout à l'heure. C'est Chicone qui fait le rythme pour l'équipe Trek Segafredo. Là, on veut vraiment éliminer le plus de sprinteurs possible et même des coureurs qui seraient un peu moins bien aujourd'hui. Là, ça monte très très vite.
Voilà, c'est le scénario qu'on avait imaginé ce matin, que dans cette côte des Camas, et il reste 4 km encore à parcourir, eh bien, il y a un certain nombre de garçons qui n'arrivent pas à suivre. Jonas Vingegaard a retrouvé sa place. Wout van Aert est bien en bonne position. Peut-être que la revanche des Jumbo tout à l'heure, ça sera d'aller chercher une victoire d'étape avec le maillot vert. Mais oui. Groenewegen est distancé à l'instant. Dylan Groenewegen est distancé, ça change forcément aussi l'approche de la course pour la Bike Exchange qui va à nouveau miser sur Michael Matthews comme hier.
Exactement, sur Michael Matthews. Après, je suis assez de l'avis à Cyril. Moi, si j'étais directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma, je demanderais à Van Aert de pas aller faire le sprint parce que pour l'instant, c'est tout
noir.
C'est tout noir pour eux. C'est vraiment une mauvaise journée pour l'équipe de Vingegaard. Donc, je proposerais à Van Aert de rester tranquille avec Vingegaard.
D'autant que Vingegaard va avoir de plus en plus besoin de Van Aert dans les jours qui viennent parce qu'avec deux équipiers de luxe en moins en montagne, eh bien les services de Van Aert, même s'il c'est pas un immense grimpeur, il peut rendre d'énormes services dans la montagne.
D'énormes services. Dans l'étape de l'Alpe d'Huez, il s'est écarté à 5 ou 6 km seulement de l'arrivée et là il a plus que deux coéquipiers, hein, Vingegaard. Aujourd'hui on parle Van Aert et Laporte qui est rentré, les autres pour l'instant sont pas rentrés. Michael Matthews distancé, c'est juste apparemment il est attendu par ses coéquipiers.
Mesgeek, Matthews, en fait ils vont essayer de faire rentrer Groenewegen. On parie toujours sur Groenewegen pour le moment. Est-ce que c'est une bonne idée? Luca Mazzato à l'instant est distancé pour la BNB. Je vous précise juste que Michael Morcoff est à 33 minutes derrière.
Donc à 20 minutes environ.
Ça n'avait pas encore accéléré. Donc là ça commence à se compliquer pour Morcoff.
Ça accélère, d'autant que ça accélère dans la montée. Hein.
Ouais, ça risque d'être compliqué pour Morcoff. Bonamour distancé, Frison, Adrien Petit, Taco van der Horn et Fabio Jakobsen, je vous le disais, distancé. Donc il y a des groupes qui se créent là, deux minutes derrière. Ghana, Fuglsang, Ewan, Sepp Kuss semble-t-il est distancé.
Il n'est pas rentré encore.
Sepp Kuss n'est pas rentré. Jacques Bauer également. Voilà quelques-uns des garçons qui sont derrière pour l'instant, comme Nathan Van Hooydonk qui n'est pas rentré non plus.
Philipsen est bien placé, juste derrière les Trek Segafredo en cinquième position. Pour l'instant, c'est peut-être le sprinter le plus rapide intrinsèquement qui reste dans le peloton.
Voilà, on rappelle qu'il fait très chaud, hein, plus de 40 degrés en ce moment sur les routes du Tour de France. Et là, on fournit cet effort. Après ce coup de chaud, plus cette ambiance un peu électrique, Christophe, là, ça doit être dur pour les organismeurs. Hein.
C'est dur.
On va ouvrir ton micro.
Bah non, tu n'y es pour rien. Tu n'es pas responsable comme Cyril Guimard.
C'est l'homme à l'ombrelle dans la régie qui est en train de se faire un peu de vent et qui ne peut plus appuyer sur les bons boutons.
Il est plus lucide.
L'andalou.
Oui, c'est vrai, on dirait un andalou.
Non, mais c'est clair que la petite sélection, en tout cas, qui est en train d'exercer la grosse pression de Trixie Grafredo pour justement Mats Pedersen est très intéressante. Les sprinteurs les moins aguerris au fait de pouvoir gravir cette côte va être difficile. L'ambiance est lourde, il y a eu des chutes, on voit le peloton très fatigué. En tout cas, une passe d'armes assez intéressante dans cette côte, qu'on l'avait dit tout à l'heure, qui va faire très certainement beaucoup de sélections.
Marc Hirschi distancé également. Alexander Christophe du côté des sprinteurs n'arrive pas à suivre. Alors pour l'instant, ils sont à 30-40 secondes, mais derrière, il reste 2 km encore d'ascension. Amaury Capiot aussi pour la Cofidis est lâché à 40 secondes. C'est là où se trouve actuellement Groenewegen en compagnie de Mozzato, Mohoric également. Ça fait beaucoup, beaucoup de mal cette attaque, en tout cas cette ascension rapide de la part de Quinn Simmons et des équipiers de Mats Pedersen.
En revanche, le maillot jaune ne semble pas se ressentir pour l'instant, en tout cas de la chute tout à l'heure. On a vu son maillot jaune légèrement noirci sur l'épaule gauche, mais c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est demain qu'il faudra voir s'il ne se ressent pas des effets de cette chute.
C'est étape de repos demain, donc il aura le temps.
Oui, demain oui.
Donc, mais non, là je pense qu'il est tombé, mais il s'est pas fait mal.
Il s'est pas fait mal. Bah, tant mieux, parce que là ça aurait quand même été terrible de perdre le maillot jaune aujourd'hui, alors qu'il reste une semaine de course et qu'on espère qu'il y aura la grande bagarre entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, séparés, on vous le rappelle, de 2 minutes 22 en faveur de Vingegaard, qui est en 10e, 15e position dans ce peloton, toujours dans la roue de son maillot vert de coéquipier Wout van Aert.
Oui, Brandon McNulty est toujours aux côtés de Pogacar. Pour le moment, on essaye de repérer les garçons qui sont toujours présents dans ce groupe. Pas de soucis pour Romain Bardet et pour David Gaudu, pas plus que pour Geraint Thomas et la plupart des leaders qui sont toujours en bonne position à 1,5 km du sommet désormais de cette côte des Camazes. 48 secondes de retard maintenant pour le groupe Groenewegen.
Oui, ça va être compliqué. Hofstetter également.
Il faut qu'il s'accroche, il est pas loin du sommet. Je pensais justement à lui à l'instant parce que j'ai vu Benjamin Thomas qui est en très bonne position à l'avant du peloton. Je pensais à Hugo parce qu'il va très vite, il passe assez bien les bosses normalement. Il est à 1 km du sommet, il faut qu'il arrive à basculer avec eux. Après, il aura toutes ses chances pour la victoire.
Il est à combien? Il est dans le groupe de Groenewegen?
Non, il est à l'arrière du peloton.
Je croyais qu'il était dans le groupe de Groenewegen.
Il est toujours dans le peloton pour le moment, il s'accroche, il lui reste 1,2 km. Et puis, on peut imaginer qu'avec les informations qui sont données aux coureurs de la Trek Segafredo, c'est pas parce qu'ils vont être au sommet qu'ils vont
relever le pied. Pas du tout. Là, maintenant, c'est parti jusqu'à l'arrivée. Est-ce qu'ils vont recevoir un coup de main d'une autre équipe? Pas sûr, parce qu'on voit qu'il y a toujours Philipsen, mais il doit plus lui rester beaucoup de coéquipiers. Je pense que l'équipe Trek Segafredo sont partis pour rouler comme ça jusqu'à l'arrivée.
Benjamin Thomas, hein, toujours en bonne position. Rafa Majka est là aussi aux côtés de Pogacar.
En quatrième position, hein, juste là dans le peloton, très 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 attentif à ce qui pourrait se passer. Vingegaard est un petit peu plus loin, toujours dans la roue de Wout van Aert. Nous sommes à 500 mètres du passage de cette côte des Camazes.
Ouais, avec un Mats Pedersen en troisième position derrière ses deux équipiers. Quinn Simmons qui accélère encore. Alexis Goujard très bien placé. Alexis Goujard actuellement. Jonas Vingegaard en 10e position, et puis avec Quinn Simmons et Mats Pedersen, il y a Jesper Stuyven présent également. Tiens, Quinn Simmons vient de rater la musette, et il en faut deux, dit Jesper Stuyven, il en faut deux parce que mon copain Quinn Simmons juste devant moi a raté la première, donc je vais pouvoir l'asperger un peu, lui donner des bidons. Et Benjamin Thomas qui vient relayer à l'instant avec Alexis Goujard dans sa roue. Les Français sont présents dans cette fin d'étape, il reste 48 km à parcourir. Benjamin Thomas et Alexis Goujard qui accélèrent et qui sont en train de partir, même tous les deux, qui sont en train de lâcher Quinn Simmons et Jesper Stuyven. Ils tentent un coup, les deux Français, à l'instant ils vont surtout chercher des points. Est-ce qu'ils vont essayer de poursuivre l'aventure? Allez, Alexis Goujard qui poursuit, lui qui se dit il y a peut-être un coup à jouer, mais il reste 48 km à parcourir.
Ça va être long, très long pour les deux Français. Il a hésité, ils ont hésité.
Alexis Goujard, Benjamin Thomas a hésité.
Il a franchi la ligne en tête, il s'est arrêté, puis il a vu que Goujard partait, du coup, il a tenté de partir derrière lui, mais il n'y a pas un gros écart hein, entre ces deux Français et l'avant-garde du peloton.
Oui, mais il y a peut-être un coup à jouer. C'est une étape un petit peu bizarre. Il se passe des choses, des chutes. Pourquoi pas tenter ? C'est en tentant, comme tu dis souvent, si on ne tente pas, on n'a aucune chance de gagner, Jérôme.
C'est ça. Donc, je pense que dans un premier temps, Benjamin Thomas, il a voulu prendre les points pour éventuellement protéger le maillot de Geschke. Je vois que ça comme explication. Ensuite, Alexis Goujard a continué sur le sommet de la bosse. Il a pris la roue. Les Trek Segafredo sont montés très vite, mais ils sont plus que deux pour Mats Pedersen. Hein. Quinn Simons et Stuyven pour l'instant. Donc, s'il y a qu'eux qui roulent, c'est du 2 contre 2. Pourquoi pas? Et on sait que Benjamin Thomas et Alexis Goujard sont deux excellents rouleurs.
Ils ont fait un petit trou. Ils ont fait un petit trou, nos deux Français, dans la descente, là. Christophe?
Ouais, petite précision également, intéressante pour nos deux coureurs français. Il faut savoir qu'à 25 km de l'arrivée, nous allons descendre et retrouver des parties extrêmement favorables, descendantes, plates, plutôt, qui vont aller très très vite et qui vont donner justement de l'intérêt et de la puissance à ces grands rouleurs qui auront à même d'aller dans ce final plutôt favorable.
Alors Cyril, tu l'as souvent critiqué aujourd'hui, Alexis Goujard.
Pas qu'aujourd'hui.
là, c'est bien ce qu'il fait.
Ce qu'il fait, c'est très bien. Là, on est dans un final de course. Là, il a les chevaux pour y aller. Il est en train de le démontrer. Et ce petit coup parti avec Benjamin Thomas.
Presque par hasard, finalement.
Oui, mais c'était non, pas par hasard, parce qu'ils étaient en 4e et 5e position.
Oui, mais Thomas a passé la ligne.
Il a vraiment vissé pour sortir. Goujard y est allé tout de suite. La preuve, c'est qu'à la vitesse à laquelle ils sont passés à côté de Quinn Simons, c'était pas un relais qu'ils venaient prendre, c'était une véritable offensive. Mmh. Et pour l'instant, je trouve que cette offensive est une belle offensive, ouais. Car ça peut ressortir derrière. Alors, on nous a annoncé un petit vent de face pour finir. Il va falloir voir quand on va être sorti un petit peu là de la partie boisée. Mais voilà une belle attaque, une attaque intelligente qui peut provoquer effectivement une belle sélection derrière.
Et les deux Français qui creusent, 18 secondes d'écart désormais en faveur de Benjamin Thomas et d'Alexis Goujard, coureur de la formation Cofidis et BNB Hotel.
Oui, et ce qui se passe, c'est aussi le troisième groupe, le groupe des sprinteurs qui n'ont pas réussi à tenir dans le peloton avec Groenewegen, etc., qui sont eux à une minute derrière ce peloton. Donc ça va rouler à tous les étages maintenant, Jérôme. La course est vraiment lancée.
Là, la course est lancée. Ça ira comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est deux en plus très bons rouleurs. Hein, je le répète, mais Benjamin Thomas, deux fois champion de France. Alexis Goujard était sélectionné par Cyril Guimard au championnat du monde contre la montre. Ils vont bien s'entendre. Forcément, ils vont pas se regarder jusqu'au dernier kilomètre. Ils vont très bien rouler. Qui va venir aider derrière la Trek Segafredo? On verra ça. Mais c'est un très très bon coup. Ils ont déjà 25 secondes d'avance. Derrière, ils vont être obligés de rouler dans le groupe maillot jaune. Les Trek, ils ont fait la première sélection. Ils vont pas laisser rentrer Groenewegen ou Caleb Ewan, par exemple. Ça va rouler à tous les étages. Tu l'as dit, Pierre-Yves. Mais ça sera du 2 contre 2 pour l'instant.
Et pour l'instant, on a des images du barrage. Il est magnifique, ce barrage. Mais on a deux Français en tête de course. Ce serait bien quand même de revenir sur Goujard et Benjamin Thomas. Voilà, 22 secondes d'écart au dernier pointage. Et la moto RMC peut-être avec Arnaud. Je ne sais pas s'il a, où il se trouve avec Marco, devant les deux coureurs peut-être.
Devant les deux coureurs, effectivement, juste pour vous dire qu'on est toujours dans une partie très boisée. On alterne désormais pendant de très longs kilomètres des parties montantes et des parties descendantes. Actuellement, plutôt dans une partie descendante pour les hommes de tête. C'est assez technique, hein, c'est relativement technique comme descente. Donc il faut être un bon descendeur, un bon rouleur pour pourquoi pas essayer de prendre de l'avance pour les deux hommes de tête.
44 km à parcourir exactement et toujours cet écart de 24 secondes pour les deux hommes de tête et 1:21 pour le groupe Groenewegen derrière et tous les sprinteurs ou quasiment qui sont dans ce groupe et qui vont essayer de rentrer, menés très certainement par la Bike Exchange puisqu'on avait fait décrocher tout le monde, y compris Michael Matthews. On a tout mis aujourd'hui, tout misé sur Dylan Groenewegen pour la Bike Exchange.
Très bien, il est 16h56, on va s'arrêter sur le bord de la route, laisser passer les infos 17h et revenir peut-être sur la route du Tour pour une première victoire française. 25 secondes d'écart désormais en faveur de Goujard et de Thomas à 44 km de l'arrivée. Elle est loin encore cette arrivée à Carcassonne et ça va être dur évidemment, mais on croit en nos deux Français. À tout à l'heure.